À moins d'un an des élections, Québec met la table. Hier, le premier ministre François Legault a présenté le discours d'ouverture de cette nouvelle session à Québec avec des mesures, évidemment, de principe dans à peu près tous les secteurs, que ce soit en éducation, que ce soit dans le réseau de la santé, aider les familles, implanter l'Internet à haute vitesse. Bref, une longue liste. J'en parle ce matin avec Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Si on regarde ça, évidemment, c'est un discours, donc, des intentions. Comment vous allez réaliser, puis je vais essayer de prendre des exemples concrets ce matin pour que les gens nous suivent, là. Quand, je dirais, l'embauche du personnel manquant, c'est-à-dire qu'on a beau dire j'ai besoin de tant d'éducatrices, tant d'infirmières, tant de préposés, tant d'intervenantes à la DPJ, mais les gens ne sont pas là, ils ne lèvent pas la main. Alors, vous avez beau vouloir les embaucher, comment vous allez les trouver?
Oui, bien, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est le cœur, je vous dirais, de la vision qu'on a exposée hier, une vision quand même ambitieuse qui s'enracine dans les priorités qu'on avait déjà, mais qui sont un peu renouvelées à la lumière de ce qui s'est passé après un an et demi de pandémie. Puis le dénominateur commun, effectivement, ce que vous dites, la santé, la DPJ, l'éducation, manque de main-d'œuvre, mais dans des emplois que nous, on qualifie d'essentiels. C'est-à-dire, il y a plusieurs emplois essentiels là, dans la vie, là, mais tout ce qui est service direct à nos aînés, à nos enfants, aux gens qui ont besoin de soins, aux gens qui ont besoin de recevoir des services d'éducation, etc. Donc, ça va être au cœur d'un plan sur lequel travaille mon collègue ministre du Travail, donc pour s'assurer de combler les emplois essentiels. Mais des choses qu'on a déjà faites, puis qui sont quand même assez inédites. Là, on a mis en place des actions. Si on pense aux conventions qu'on a signées dans le réseau de la santé, pour entre autres avec les infirmières, parce qu'on manque beaucoup d'infirmières dans le réseau de la santé. Là, je pense que tout le monde est au courant de ça. Donc, on a signé des nouvelles conventions. Ma collègue au Conseil du Trésor a réussi à signer des conventions, mais qui ne sont pas en application tout de suite. Donc, en attendant que ça rentre en application, on a annoncé, souvenez-vous, il y a à peu près 2 semaines, des incitatifs financiers et autres pour réattirer des infirmières dans le réseau.
Okay, mais je comprends, Mme Guilbeault, mais on va regarder des faits. La démographie du Québec ne ment pas. La population vieillit. La population va demander de plus en plus de services de santé. Ça va coûter de plus en plus cher. Vous avez beau me dire, là, il y a une nouvelle convention collective. Tant mieux là, si la qualité de vie du personnel du réseau s'améliore. Mais vous allez les prendre où? Voulez-vous augmenter l'immigration? Comment vous allez combler les postes et activer la population du marché du travail?
Mais l'immigration, c'est une des façons, effectivement, faire en sorte que le système puisse recevoir le plus d'immigrants possible qui vont venir combler des emplois disponibles. Depuis qu'on est arrivé, nous, c'est notre discours sur l'immigration de dire est-ce qu'on peut augmenter d'ailleurs le seuil sur lequel on a le contrôle avec le fédéral pour s'assurer qu'il y a des gens qui viennent occuper des emplois disponibles au Québec, entre autres des emplois à valeur ajoutée. Mais indépendamment de l'immigration, il y a le choix de carrière des jeunes. L'orientation des talents, moi que j'appelle ça. Là. Il faut être capable de convaincre les jeunes d'aller étudier dans les domaines dont on a besoin, que ce soit les services essentiels, je dirais à teneur plus humaine, dont on parlait, éducatrice, service de garde, etc. Puis aussi tous les emplois en technologie, les emplois en ingénierie, les emplois, tu sais, dans d'autres types de domaines. Fait. Mais en ce moment, le problème qu'on a, c'est que il y a un discours, entre autres, il y a un discours syndical, mais pas seulement syndical, il y a une impression à cause de tout ce qui s'est passé avec la pandémie que ces emplois-là sont pas suffisamment, ont pas été suffisamment reconnus par les précédents gouvernements, pas suffisamment payés, pas suffisamment de qualité de vie quand on occupe ces emplois-là. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Tu sais, les infirmières, ils sortent du réseau parce qu'ils sont tannés, ils vont travailler dans des agences privées, puis là, on paye plus cher pour avoir la même infirmière via une agence privée pour qu'elle vienne travailler dans le public.
Non, ça,
les éducatrices en service de garde sont
Madame Guilbeault, on sait tout ça.
On a mis des mesures inédites. Il faut quand même le reconnaître pour essayer de convaincre les filles.
On sait tout ça. Mais en même temps, votre collègue Carman annonce 100 millions pour envoyer les gens qui ont besoin d'un suivi psychologique vers des psychologues privés. Puis la liste d'attente ne baisse pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un beau discours, c'est des belles paroles, mais en bout de ligne, chaque année, comme je disais à mon collègue Bernard tantôt, il y a des milliards qui ne sont pas dépensés parce qu'on ne trouve pas preneur, même si c'est annoncé et budgété.
Oui, bon, faut premièrement, effectivement, créer, doter les postes, puis après ça, les afficher, il faut qu'ils soient comblés. Ça, vous avez bien raison. Mais il faut faire autrement. Tu sais, tu peux pas... La pénurie de main-d'œuvre, on va s'entendre là-dessus, elle n'est pas arrivée avec la CAQ en 2018, là.
T'sais. Non, mais elle était là avant la pandémie, par exemple.
Exactement. Elle était là. Puis il y a 10 ans, il y a 15 ans, on la voyait venir. Puis il n'y a rien de particulier qui a été fait. Fait que là, nous autres, on arrive, puis tout ça, on se rend compte de ça. On tombe dans la pandémie, on forme des préposés aux bénéficiaires en accéléré. C'est un exemple, ça, parce que c'est un type de formation qui se fait bien en accéléré. Mais tu ne peux pas former un médecin en 3 mois comme un préposé. T'sais, on est tous d'accord là-dessus.
Mais est-ce que je comprends dans vos paroles? Est-ce que je comprends dans vos paroles? Parce que la CAQ sur l'immigration, des fois, ça dépend du moment, là. On veut réduire, après ça, on dit on veut augmenter. Est-ce que vous me dites ce matin que la CAQ est prête à ouvrir davantage vers l'immigration pour combler des besoins urgents sur le marché du travail?
Nos seuils d'immigration ont déjà été annoncés. Là, on a notre plan, nous, d'immigration avec les seuils. Il y en a eu un peu moins pendant la pandémie pour des raisons évidentes. C'était compliqué là, de voyager. Là, toutes les nations étaient confrontées. Fait que nos seuils sont déjà annoncés. Ce que je vous dis, c'est que nous, on est en discussion avec le fédéral depuis longtemps parce qu'on aimerait ça que la portion sur laquelle le Québec a le contrôle, là, le 65% d'immigration économique, qui soit augmentée. Mais ça, on dépend du fédéral. Fait que c'est des discussions qu'on a. Mais tu sais, vous me donniez l'exemple de la santé mentale. Quand je vous dis qu'il faut faire les choses autrement, c'est que oui, il faut afficher des postes puis les combler, puis trouver une manière de pouvoir former d'inciter les gens à étudier là-dedans, les former le plus efficacement possible, mais aussi d'ouvrir tu sais, l'interdisciplinarité. Et si vous parliez avec mon collègue Lionel Carman, qui est responsable de ça, c'est ça qu'il vous dirait. T'as pas nécessairement besoin seulement des psychologues. Il faut être capable de mettre d'autres professionnels à contribution, parce que des fois, le soin ou le service qui est nécessaire ou dont quelqu'un a besoin, c'est pas obligé d'être un psy traditionnel qui l'offre. Des fois, tu peux parler à un travailleur social, tu peux parler à un autre type d'intervenant. T'sais, il y a des actes médicaux qu'on peut déléguer aux infirmières, qu'on a déjà fait aux pharmaciens. On essaie d'ouvrir les choses puis de faire les choses autrement, de manière innovante, puis pas rester emprisonné dans les vieilles façons de faire où là, on se dit juste, j'ai pas accès à ci, j'ai pas accès à ça, je suis sur des listes d'attente partout.
OK. Il y a un autre point. L'urgence sanitaire est maintenue jusqu'au début de l'an prochain. Vous ne trouvez pas que la pandémie a le dos large, là, qu'on pourrait très bien là, passer à une autre étape maintenant quand 80 % des Québécois sont vaccinés, puis j'inclus ceux qui n'ont même pas accès au vaccin. Il me semble que c'est un abus de pouvoir un peu, ça.
Non, bien, il risque, la pandémie est encore là. C'est ça le problème qu'on a.
Oui, mais on n'est pas dans une urgence sanitaire. C'est ça mon point.
On est dans l'urgence sanitaire dans le sens où il y a encore des gens qui ont COVID, qui occupent des hôpitaux, qui occupent des lits, des soins intensifs, des ressources humaines dont on aurait besoin pour faire autre chose.
Il va y en avoir encore en janvier.
Il y a beaucoup de jeunes. Oui, bien, ça, on l'a dit. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça, c'est une chose. Mais il y a plus de jeunes qui ont la COVID maintenant. Il y en a dans les écoles, puis tout ça. Fait que ce qu'on disait hier, parce qu'on sait bien que les gens sont tannés, là, c'est sûr, tu sais. Fait que 5 à 11 ans. Puis hier, Pfizer a demandé l'homologation du vaccin. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Quand Santé Canada va homologuer le vaccin, c'est après ça qu'on attend, là, pour bien comprendre la séquence, il faut que Santé Canada donne le OK. Puis ensuite,
oui,
mais
moi,
les vaccine les jeunes.
Je vous parle de l'urgence sanitaire. Je comprends tout ça, puis
oui,
tant
ça.
Mieux. Mais l'urgence sanitaire, ça permet au gouvernement de donner des contrats gré à gré. Moi, c'est ça qui m'achale.
Mais c'est que ça permet aussi d'autres affaires qui sont utiles, objectivement, puis qui sont même nécessaires. Il faut permettre à des gens, justement, qui normalement n'ont pas le droit de vacciner. On parlait tantôt de faire les choses autrement. Si on avait juste pris les gens qui vaccinent traditionnellement, on n'en serait pas venu à bout.
Oui, mais la crise, là, on est dans une phase qui descend. Je comprends qu'au début, on a besoin de prendre ces mesures-là, mais là, ça s'étire. Puis je crois pas qu'en janvier, ça va être, à part que les enfants vont être vaccinés, là, commencer à être vaccinés, ça va être bien, bien différent. C'est comme si le gouvernement se dit... Je veux avoir encore ce pouvoir-là pour une couple de mois.
Oui, parce qu'on a besoin de certains outils d'agilité puis de flexibilité là-dedans qui nous permettent d'être efficaces. Si on n'avait pas ces outils-là, le monde serait donc bien long, c'est donc bien compliqué, comment ça qu'on peut pas se faire vacciner, qu'on peut pas avoir de rendez-vous à distance pour avoir des consultations médicales, puis ça. Fait que ce qu'on est en train de faire, parce que mon collègue de la santé va déposer un projet de loi, là, un gros projet de loi, il va avoir plein d'affaires là-dedans, c'est avoir accès à de l'information, puis tout ça, des choses importantes pour être capable de rendre le réseau de la santé plus efficace. Il va transposer ce qui est nécessaire, là, puis ce que les Québécois ont trouvé de bon là avec la COVID, puis qui trouvent ça plus efficace qu'avant, puis qui nous a permis d'être agile. On va transposer ça dans un projet de loi pour s'assurer de le garder, pour se débarrasser du reste qui, effectivement, à un moment donné, ne sera plus nécessaire. Mais tu sais, c'est bientôt. Là, on est en octobre, quasiment en novembre. Nous autres, on pense que début 2022, les jeunes vont pouvoir être vaccinés sous réserve de Santé Canada, puis qu'on va la lever, l'urgence sanitaire. Là. Mais on va rester efficace, puis ce qui était bon dans l'urgence sanitaire, on va s'assurer de le garder, parce qu'on va être plus performant.
Ouais. En parlant d'urgence, qu'est-ce que vous pensez de l'UPAC et de ses méthodes de travail?
Bon, il y a eu un jugement hier, avant-hier, il y a 2-3 jours, là, qui est sorti. Donc, je présume que c'est en rapport avec ça que vous m'en parlez.
Bien, surtout le principe étant le suivant, qu'un juge ramasse l'UPAC et le DPCP en disant que c'était un face-à-face avec le système, une volonté de gagner à tout prix, et que, bref, l'UPAC n'a pas fait sa job dans les règles de l'art. Là, je demande à la ministre de la Sécurité publique, qu'est-ce qu'elle pense de l'UPAC?
Ben deux choses. Là, le jugement est sorti. On a 30 jours, nous, pour décider si on va faire appel ou non. Et le DPCP, puis je pense qu'ils l'ont dit publiquement, là, donc le DPCP est en train d'évaluer les moyens pour aller en appel de ce jugement-là. Eux considèrent que les conclusions de la juge sont pas fondées sur la preuve qui a été présentée. Donc, on analyse ça. C'est un jugement de 80 quelques pages. Là. Fait que donc, il y a une possibilité qu'on aille en appel du jugement pour cette raison-là. Vous comprenez que je dois être très prudente. Je suis tout le temps les mêmes lignes, mais c'est comme ça que le fonctionnement.
Ouais, mais
sur l'UPAC en général, sur l'UPAC, parce que ce jugement-là, juste pour mettre en contexte, il visait à la fois l'UPAC et le DPCP. C'est le DPCP qui prend la décision d'aller en appel ou non, mais l'UPAC est d'une certaine façon comme solidaire là, là-dedans.
Le jugement, je l'ai lu, là, et le jugement attaque sévèrement et durement la façon de faire de l'UPAC. Là.
C'est ça. Bon, mais sur l'UPAC, mais c'est-à-dire que si on va en appel du jugement, puis qu'éventuellement, tu sais, il y a une nouvelle décision, tu sais, il faut juste que je fasse attention. Je vais répondre sur l'UPAC parce que je vois où vous voulez en venir. L'UPAC, puis tu sais, là aussi, l'UPAC, là, moi, je suis arrivée il y a 3 ans, puis là, l'UPAC, on sait comment c'était. Là. Le précédent commissaire venait de démissionner pendant la campagne électorale. C'était un peu, si vous me passez l'expression, le bordel. Les gens se demandaient ce qui arrivait avec ça. Il y avait toutes sortes d'histoires. On a pris la décision comme gouvernement de dire ça n'a pas de bon sens, l'UPAC, on peut pas laisser ça de même. On va mettre en place une nouvelle administration, un nouveau commissaire, qu'on nommera pas tout seul le gouvernement comme faisaient les libéraux dans le temps à nommer puis renommer le même monde. Là. On l'a nommé avec l'assentiment de tous les partis de l'Assemblée nationale. En passant, tout le monde a voté pour le commissaire à l'Assemblée nationale. QS, libéraux, PQ et CAQ. Et on a mis un nouveau commissaire à l'automne 2019, lui avait besoin d'une nouvelle équipe, puis je termine rapidement. J'ai fait un autre projet de loi par la suite, à la fin de l'année passée, pour que l'UPAC puisse embaucher ses propres enquêteurs, puis fonctionner.
Oui, mais le problème, Mme Guilbeault,
puis c'est en train de se mettre en place.
Mais le jugement porte sur l'administration actuelle de l'UPAC.
En partie, oui, sur des faits de l'automne 2020, quand même lié à une enquête qui, elle,
remonte
à la précédente administration. Mais vous avez raison. Ce que je vous
votre
dis,
commissaire,
c'est que...
il sort pour s'excuser auprès de Guy Ouellet, s'en va lire un texte approuvé par les avocats dans un règlement avec Guy Ouellet. Vous trouvez pas qu'il y a comme un maudit problème à l'UPAC 1, puis 2, on a ça encore besoin de l'UPAC?
Mais là, il ne faut pas mélanger. Là. Les histoires liées aux députés de Chemédé datent de la précédente administration.
OK, mais on s'excuse, puis on ferme des enquêtes.
C'est-à-dire, c'est lui qui est pris pour s'excuser aujourd'hui, mais c'est pas lui qui était là dans ce temps-là.
Non.
Il faut faire la part des choses. Le jugement, la partie du jugement qui concerne des événements de 2020, vous avez raison de dire que c'est la nouvelle administration. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a mis des choses en place. C'est en train, tu sais, le règlement sur la formation du PAC. Moi, là, c'est des affaires, tu sais, qui passent un peu inaperçues, mais on a créé un règlement sur la formation à l'UPAC. Quand j'ai fait mon projet de loi pour dire, là, l'UPAC, il est prêt de service à gauche, à droite, là, dépareillé, puis ça va mal, puis c'est compliqué avec les conventions collectives qui contrôlent pas, puis tout ça, c'était compliqué. On a fait un projet de loi pour qu'il puisse avoir ses propres enquêteurs, qu'on a sorti d'un règlement sur la formation des gens qui vont travailler à l'UPAC
mais
désormais.
Pensez-vous vraiment qu'on a encore besoin
de
l'UPAC?
De se mettre en place.
Moi, c'est ma question finale.
Moi, je pense que oui.
Ça, c'est encore utile.
Mais il nous faut une organisation qui lutte contre la corruption à temps plein, parce que vous savez comment c'est? Si on l'enlevait, ça enverrait comme une espèce de signal qu'on ne surveille plus bien, puis là, il se recommencera à voir, si vous passez l'expression.
Je ne dis pas d'annuler et de faire disparaître les enquêtes sur la corruption. Je vous parle de l'UPAC qui est dysfonctionnel pratiquement depuis sa création.
Il faut l'améliorer. C'est à ça que je me suis attaquée. Puis on laisse la chance aux coureurs, mais je veux dire qu'il faut laisser autant les choses autant de. Il faut laisser aux choses le temps de se faire. Mon règlement sur l'UPAC, comme je dis, est entré en vigueur en septembre 2021. Ça vient de se finaliser. C'est parce que les affaires prennent du temps aussi. Tu sais, il faut respecter les processus parlementaires. Fait que là, c'est en train de se faire. Moi, j'ai parlé justement au commissaire de l'UPAC la semaine dernière, par hasard. Là, on ne savait pas que le jugement s'en viendrait. J'ai parlé à mon directeur de l'école de police qui organise la formation ensemble. On veut veut professionnaliser puis formaliser les formations à tous les niveaux, qu'on soit enquêteur, officier. On veut le faire d'ailleurs pour tous les corps de police au Québec. On est en train de mener une espèce de réforme, mais il faut le faire convenablement puis il faut laisser la chance. Mais bon, pour ce qui est du jugement dont vous parlez,
ben vous dire une affaire, on parle même pas, en tout cas, je veux bien la formation, là, mais y a-t-il un enquêteur qui sait qu'on n'a pas à cacher des éléments de preuve à la défense? Il me semble que c'est dans la formation de base. Tu n'as pas besoin de rappeler ça lors d'un cours spécial. Le jugement, mais il là, est dévastateur. Moi, je l'ai lu deux fois pour être bien sûr. Là. C'est dévastateur pour l'UPAC. C'est épouvantable.
Je l'ai lu aussi, mais c'est parce que vous comprenez que si on décide d'aller en appel, il y a des divergences d'interprétation. Si on décide d'aller en appel, moi, je peux pas, tu sais, mes propos pourraient être utilisés puis tout ça. Fait que faut que je fasse très attention.
OK. Merci, Mme Guilbeault.
Mais merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique.